Bonsoir et bienvenue pour cette séance des regards critiques qui aurait dû être la dernière du cycle confié à Bernard Eisenschitz et qui se trouve être l'avant-dernière puisque nous reprogrammons la séance du 7 décembre qui avait été annulée par la grève le 19 avril. Donc ce soir, la séance s'intitule « Courir le monde et apprendre » et est une forme d'hommage à Jean-André Fieschi qui nous a quittés cet été. Et voilà, je vais laisser Bernard Eisenschitz s'expliquer.
Oui, courir le monde et apprendre, c'était la recommandation que lui donnait Ninetto à la fin du film « Ninetto le messager ». Bon, je crois que d'une part, il faut remercier, je ne suis pas du tout officiel, mais je pense qu'il faut remercier Alain Carou et la BNF qui ont... permis le transfert d'un certain nombre d'épisodes du Jeu des voyages de Jean-André Fieschi, terminé en 2004, qui existait jusque-là en copie travail. Il y avait eu une projection ici d'un certain nombre d'épisodes en 2004 et le film était resté à part les quatre premiers épisodes que Jean-André avait transféré sur DVD qui avait été plus ou moins nettoyés pour la circonstance et qui ont été présentés à Lisbonne en novembre dernier. Les autres restaient en copie travail humatique et la BNF, le département audiovisuel de la BNF, a proposé, ils ont pris l'initiative de proposer une restauration, une conservation sur des supports actuels et dans l'urgence de cette présentation aujourd'hui, ils ont fait non pas une restauration qui, comme vous le verrez, est encore nécessaire, une restauration purement technique, mais ils ont fait un simple transfert des éléments humatiques, qui est un support désuet, sur Betanum. Tout simplement, et c'est comme ça que vous allez pouvoir voir le film dans des conditions qui ne sont pas parfaites, avec un son, avec un souffle assez fort dans le son, etc. Mais enfin bon, vous êtes prévenus, ça ne sera pas la qualité dont j'aurais rêvé, mais en tout cas, grâce à la BNF, d'une part, nous pouvons faire cette séance en variant un petit peu par rapport aux épisodes qui existaient sur DVD, qui circulaient entre les uns et les autres sur DVD, et par ailleurs, il y a cette promesse d'une restauration et d'une mise à disposition qui permettra que le film soit vu, ce qui est plus que la Cinémathèque française, qui aurait été le lieu absolument approprié pour un film de Jean-André Fieschi, n'a proposé de faire. Donc merci à Alain Carou et à la BNF pour cette initiative. Il y a un deuxième avant-propos qui est moins optimiste, qui est plus triste, la mort vendredi dernier de Séverin Blanchet. Ce n'est pas distinct de notre programme ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de fils qui circulent entre Séverin, Blanchet, Jean-André Fieschi, moi, incidemment. Par exemple, bon, on peut commencer par le commencement. Séverin Blanchet, je l'ai connu au lycée Henri IV. Et il y a un mois, il m'a dit qu'il avait connu Jean-André au lycée Henri IV aussi. Alors, Jean-André avait 2 ans de plus que nous. Et je ne l'ai pas connu. Je l'ai connu après. Moi, je l'ai connu quand on allait au cinéma. Je l'ai connu comme cinéphile. Apparemment, Séverin, lui, avait connu d'une classe à l'autre, je ne sais pas. Donc, ils s'étaient connus à Henri IV. Et puis, on s'est toujours croisés par la suite, lui, son frère Vincent. Jean-André, il y avait la connexion Rouche, qui était une connexion évidente. Le fait que Jean-André, comme Séverin, et Vincent étaient des Rouchiens, qui doivent beaucoup à Rouge, qu'ils ont appris de manière tout à fait différente. Hein. Mais ça s'est toujours croisé. Les frères Blanchet ont travaillé pour Unicité. Leur intervention était assez joyeuse et assez pittoresque. Enfin, dans ce lieu qui était un lieu de production audiovisuelle du Parti communiste, c'était pas aussi sérieux que ça en a l'air énoncé sous cette forme. Mais néanmoins, ils sont arrivés, ils ont commencé à installer un hamac dans l'entrée. Alors pour moi, c'était Séverin et Vincent. Et Jean-André, c'était des gens qui étaient des enfants et qui me permettaient d'être un enfant avec eux. On arrivait à quelque chose. On était dans une situation de cours de récré. On pouvait jouer aux billes. On pouvait jouer aux billes et puis on pouvait refaire le monde. Jouer aux billes, ça voulait dire que chaque fois qu'un film de Ricardo Freda passait à la télévision, le lendemain, j'avais un coup de téléphone de Jean-André Fieschi pour me dire « Tu sais, vraiment, Freda, c'est moins bien que Cota Favi. » Ça a duré pendant 30 ans. Je disais, ça va, c'est bon, je connais, j'ai entendu. Voilà, il y avait Freda contre Cota Favi, ça continuait. Si vous avez vu le film de Luc Moulet, Les sièges de l'Alcazar, vous pouvez peut-être un peu comprendre ce genre de choses. Mais enfin, c'était cours de récré. Et dans la cour de récré, on peut aussi refaire le monde. Et refaire le monde, ça veut dire aussi, ça veut dire le refaire sans cynisme, ça veut dire le refaire sans rancœur, sans amertume ou sans désespoir. Et ce qui n'était pas mal, et ce qui finalement est peut-être la seule chose à faire. Et quand Jean-André se laissait aller à l'amertume ou à la rancœur, c'était une des nombreuses occasions qu'on pouvait avoir de s'engueuler. Et c'était plutôt bien aussi comme ça. Voilà, donc Séverin, comme son frère Vincent, se définissait comme un pilote d'essai. Alors il disait ça par rapport aux caméras de Beauviala, et je pense que Jean-André aurait pu le dire aussi, si c'est lui qui l'avait inventé. Il aurait pu le dire aussi, c'était les pilotes d'essai de la caméra Aton. Jean-André était un pilote d'essai de la Paluche, qui était une autre caméra de Beauviala, qui était une caméra vidéo qu'on tenait au bout de la main, qui prolongeait la main comme un micro tenu à la main. Voilà, donc en gros, il y a quelque chose d'assez fort entre les deux, entre Séverin et Jean-André. Bon, il y avait deux choses, de toute façon, qui sont évidentes, c'est les voyages. Et puis c'est l'idée de transmettre, de faire passer la pédagogie, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'était très très important pour eux, puisqu'au point que c'est précisément en faisant un atelier qui faisait depuis 4 ans, 5 ans à Kaboul, que Séverin est mort. Voilà. Donc voilà, pour moi c'est ça, moi c'était quelque chose, une relation enfantine qui fait que, quand j'ai lu le journal, j'ai le cinéaste Séverin Blanchet, 66 ans, j'ai eu beaucoup de mal à y croire. Je me suis dit, comment 66 ans? Et puis après, je me suis dit, mais quel âge j'ai? Ben oui, le même. Mais jamais j'aurais imaginé qu'on avait 65 ans, 66 ans. C'était complètement impensable pour moi. Voilà. Bref, quand j'ai lu qu'il avait été tué, comme ça, même pas par l'explosion, mais par des tirs qu'on l'avait tiré dessus, que c'était par balle qu'il avait été tué, j'ai pensé à ce que disait ce grand cinéaste comique Jacques Tati à Jean-André. Il lui disait, quand je vois les enfants, je me dis que les adultes sont des salauds. Voilà, donc on reparlera de Séverin. Je pense que c'est une bonne conclusion. Voilà pour Jean-André. Pour Jean-André, on va passer au sujet de ce soir. Il y a un aspect dont on n'a jamais pu parler quand il était vivant, c'est l'aspect magicien de Jean-André, même si lui-même le revendiquait beaucoup. Moi, ça m'agaçait beaucoup qu'il le revendique, qu'il en fasse, que ça soit lui qui le dise. Ça aurait été mieux de laisser les autres le dire, mais en même temps, je pense que c'était vrai. Et je pense qu'il y avait quelque chose là-dedans du sorcier, du magicien, ce qui n'était pas pour, c'est pas pour rien que Rouche tenait un rôle tellement important. Et c'est lui, pour revenir au lycée Henri IV, c'est lui qui avait fait, dans ses souvenirs, mais je pense que c'est vrai, c'est lui, c'est pas moi, qui avait fait apparaître devant l'église Saint-Étienne-du-Mont, une voiture tirée par deux chevaux, et d'où était sortie une dame portant une voilette. Et voilà, donc c'est un souvenir de Jean-André, et comment est-ce qu'on aurait pu deviner que c'était que cette dame, c'était le personnage d'un des plus grands films du monde pour nous, d'un des films qui a le plus compté pour nous. Voilà, c'était Madame II. Madame II, descendaient pour entrer dans l'église Saint-Étienne du Mont. Et nous étions des lycéens. Voilà, il y a beaucoup de noms de femmes dans cette histoire, dans l'histoire de Jean-André. Alors bon, Madame II, j'en ai noté d'autres là, Lilith, Sandra, Gertrude, Anna, Vanda, bien sûr il y en avait d'autres, et puis il y avait d'autres titres aussi, il y a des titres qui ne sont pas des noms de femmes, bien sûr, au pays des chasseurs de têtes, Bandia Orgosolo, l'île aux fleurs, la région centrale, et puis je ne parle pas de Renoir. Voilà, donc il y avait... Mais il y avait effectivement, quand on parlait de ces films, ou quand il parlait de ces films, une capacité de voyant, une capacité de repérer des choses. Bon, il y a quelques mois, Jean-Patrick Lebel parlait des échanges de répliques des films de Renoir. C'est une chose importante. C'était quelque chose qui comptait beaucoup. Et voilà, la capacité aussi de passer derrière l'écran. Bon, je m'approche du sujet petit à petit. Mais il y a une autre chose que je raconte, ça nous amène au jeu des voyages. C'était la célèbre peinture, vous connaissez certainement cette peinture qui s'appelle La leçon à la Salpêtrière. On voit Charcot avec une hystérique et derrière les assistants, les élèves, les étudiants. Et ben, il n'y a que Jean-André qui pouvait repérer dans les étudiants le jeune Sigismund venu de Vienne et Gertrude arrivée de Copenhague. Le jeu du voyage, c'est ça. Alors après ça, étonnez-vous qu'il ait détesté Godard après l'avoir adoré. C'est pas très très étonnant, ça a à voir avec... disons, il y avait quelque chose de trop les mêmes pelouses pour pouvoir vraiment s'entendre. Voilà, j'y arrive. Enfin, j'y arrive par là, justement. Bon. Donc, ça donnait pas mal de matière à engueulade, sur Godard en particulier. Bon, le jeu des voyages. Ça aurait été assez logique de dire, on parle souvent du jeu des voyages, on dit souvent le journal des voyages, et effectivement, il aurait été assez logique dans l'approche oblique que j'avais voulu faire du documentaire. De s'occuper du journal filmé. C'est quelque chose qui a été traité. Il y a eu beaucoup de programmation journal filmé, pas nécessairement à Paris. Peut-être qu'il y en a eu, mais enfin, je m'en souviens pas. Mais il y a eu beaucoup de programmation. Bon, et il y a des choses. Alain Cavalier pourrait être un nom nommé. Bon, Le nom auquel je pensais, qui me paraissait le plus exemplaire, c'était David Perloff, qui a été redécouvert tout récemment, ce cinéaste israélien néo-brésil, et dont le journal filmé est à peu près comparable au jeu des voyages en termes de dimension, couvrant les années et couvrant la durée. Et le journal de David Perloff commence par cette idée énoncée, d'acheter une caméra et d'être le plus anonyme possible, de chercher à ne pas être un auteur. Et tout au long du journal de David Perloff, ou tout au long de ce que j'en ai vu en tout cas, il y a cette attitude très très tragique d'être déchiré entre cette volonté d'anonymité et le fait d'être happé par l'histoire de son pays, de ne pas pouvoir échapper au destin tragique, à la vérité de son pays. Voilà, donc journal, il ne sera pas question ici de journal filmé, comme dans le cas de David Perloff, et avec le coup de chapeau nécessaire qui doit lui être rendu, mais le jeu des voyages, le journal des voyages, là, c'est un lapsus. Donc on parle du jeu des voyages. Le jeu des voyages, c'était en 1984 un spectacle musical, une espèce de monodrame qui avait été conçu par Jean-André et qui avait été créé, la musique était, je crois, de Lucien Rosengart, et ça avait été créé, ça avait été mis en scène, créé par Marie-Noëlle Rio. C'est donc 1984. 1984, c'est 3 ans avant le premier tournage de ce qui s'appelle, de l'objet qui s'appelle aujourd'hui le jeu des voyages et qui dure 27 cassettes et une vingtaine d'heures. Les premiers tournages en V8, donc Jean-André, comme il s'était servi de la paluche de Beauviala pour faire une épopée en trois épisodes au moins qui s'appelait Les Nouveaux Mystères de New York, commence des tournages grâce à une technique nouvelle et commence à enregistrer des choses qui sont des tournages. Il y en a un petit peu, il y a des choses dans un épisode de Rome que vous ne verrez pas où Simon Fieschi est particulièrement mis en scène et où Grand Magasin intervient d'une manière parfaitement fictionnelle. Mais en gros, il s'agit plutôt de tournages qu'on pourrait appeler avisés documentaires. Bon, j'ai passé quelques temps dans les séances qui ont précédé à dire pourquoi je ne voyais pas très bien la différence entre les deux, mais en tout cas là il s'agit de tournage où l'intervention n'est pas une intervention où quelqu'un je joue le rôle de quelqu'un d'autre et je vais dire un texte qu'on m'a donné, en gros. Voilà, pour ça. Ça pourrait être un peu le sous-titre de ce dont vous allez voir un extrait assez court. Ça pourrait être, à mon avis, parti à la recherche de. C'est un peu ce que dit Ninetto à la fin du film, court le monde et apprend. Et en effet, c'est de ça qu'il s'agit dans les deux épisodes que vous allez voir ici. Jean-André Fieschi part à la recherche. Ici, l'occasion faisant le larron, il part à la recherche de deux écrivains à l'occasion de deux films qui lui ont été commandés pour une très bonne série, trop oubliée, qui s'appelait Préface. Préface, c'était une série produite par Denis Fred. Plusieurs très très bons cinéastes y ont participé. André Labarthe, Steve Dworkin, Hartmut Bitomsky, pour les Français... Parmi les Français, Henri Colomer, Pierre Beuchot, j'en oublie évidemment. Jean-André avait eu la proposition de faire, ou je ne sais pas s'il a eu la proposition de faire ou s'il a découvert... Oui, il a eu la proposition de faire des cinéastes qu'il a découverts à la faveur de cette proposition. Donc il ne s'agit pas d'écrivains, pardon. Il ne s'agit pas d'écrivains... Qu'il connaissait très bien, où il disait « je vais faire un film sur, alors bon, je ne sais pas, Pavese par exemple, des choses comme ça ». Il s'agissait d'écrivains qu'il connaissait plutôt mal et il voulait partir à la recherche de ces écrivains. Et c'est dans le mouvement de l'enquête, dans la curiosité pour eux, qu'il découvre à quel point ces deux écrivains lui sont proches. Je ne fais pas de suspense volontairement. Les deux écrivains sont l'écrivain italien Tommaso Landolfi et l'écrivain français Joé Bousquet. Et il est intéressant évidemment de comparer le résultat. On aurait pu faire ça si on avait décidé avant, si on avait eu avant les cassettes. Il serait évidemment très très intéressant de comparer le résultat. Donc ces deux films de 26 minutes... sur Landolfi et sur Bousquet, avec ce qu'il représente dans le jeu des voyages, qui est un mouvement de la découverte, enfin ce que Marx appelait la vérité déployée, l'enquête. Donc en désordre, je vois trois dimensions dans ces voyages, et vous les verrez peut-être à propos de ces deux écrivains. Et à propos, il y a un petit intermède avec Labarthe, qui est un intermède à propos de Bruno Schulz. Labarthe avait fait un film sur Bruno Schulz dans la série, film que Jean-André, je ne sais pas si je révèle un secret, mais en tout cas Jean-André n'aimait pas du tout ce film, ou en tout cas, je ne sais pas s'il l'aimait pas du tout, en tout cas il avait de très très fortes réserves par rapport à ce film. Et il a fait donc en 5 minutes, je suppose, j'ai pas vu le film de Labarthe d'ailleurs, en 5 minutes, il fait une espèce de, il fait son Bruno Schulz à lui. Voilà, bon, je vois 3 dimensions dans les, dans le jeu des voyages, ou trois références. Rouge, évidemment, bon, ça va de soi, c'est pas, on n'a pas besoin d'y revenir. On y est revenu il y a un mois à l'hommage qui a été rendu à Jean-André Avaran avec le film de Rouge, Gare du Nord, et puis les 2 films de Jean-André faits en Afrique, l'un consacré à Rouge et l'autre qui était le film fait pour s'échapper de Rouge. Niger, qui est le film sur le Niger où il retourne sur les lieux du crime, mais cette fois sans Rouge. Cette fois, c'est lui, l'enquêteur, le cinéaste. Donc Rouge, bien évidemment. Philippe Marlowe, c'était très, très, et là, c'était très important, et ça, il l'a dit, en tout cas, il me l'a dit par rapport au jeu des voyages, c'est Philippe Marlowe, l'enquêteur, c'est l'enquêteur de Raymond Chandler. D'ailleurs, c'est assez curieux de voir que les romans de Chandler avec Philippe Marlowe sont tous des romans à la première personne, comme le jeu des voyages, et le deuxième film adapté de Chandler s'appelle La Dame du Lac, et c'est un film où le héros Philippe Marlowe n'apparaît pas, sauf parfois dans la glace. C'est un film entièrement subjectif. Et la curiosité, en revoyant les six épisodes que j'ai vus là pour cette séance de Jeux des voyages, c'est très curieux parce que justement, Jean-André Fieschi n'y apparaît pas. Alors que dans ses films à lui, il aimait bien apparaître. Au contraire, dans ses films de commande ou les films qui avaient été faits avec un projet initial déterminé, délimité, contraint, il aimait bien apparaître dans ses films. Il y avait quelque chose, il devenait un personnage de ses films. Or, dans ce film où il est le personnage évident du film, il n'y apparaît pas physiquement, je veux dire. On ne le voit pas à l'image. Bon, vous allez voir dans l'heure 50 que nous allons voir. Et puis la troisième référence, évidemment, mais ça, c'était le film le plus important pour lui. C'est Nosferatu, bien sûr. Bon, vous verrez les montagnes comme on voyait les montagnes de Corse. Alors, accentué bien sûr par le noir et blanc le noir et blanc encore assez imparfait de la vidéo dans Les Nouveaux Mystères de New York et dans le film sur la Corse qu'il avait fait là qui s'appelle L'île de beauté, et on voyait les paysages de Corse, c'était comme les Carpates, quoi. Voilà, donc cette enquête, c'est Philippe Marlowe, c'est important. Ça veut dire qu'on perçoit les choses que ça veut dire, bon, l'écoute flottante, qui est évidemment la chose du détective comme du psychanalyste, ça veut dire découvrir des choses, comme vous verrez là, découvrir des recoins insoupçonnés de statues qui sont des croûtes, plutôt les statues elles-mêmes ne valent pas grand-chose, mais on y voit tout à coup autre chose, ou bien des nappes, on voit tout à coup un dessin dans une nappe, on voit l'image dans le tapis. Et puis, il y a aussi des témoins, qui disent des choses et qui ne se rendent pas nécessairement compte de ce qu'ils disent, qui disent des choses, qui révèlent des choses qui sont plus fortes que ce qu'ils croient dire. Dans le premier épisode, vous les verrez, ils ne sont pas sous-titrés, ils ne sont pas traduits malheureusement, mais vous les verrez, l'un a un accent du Nord, l'un est un médecin qui parle du jeu, et l'autre est un jardinier qui parle, lui, avec un accent très net de la Chocharia, c'est-à-dire de la région de Rome. Peut-être que vous percevrez la musique des accents, en tout cas, bon, pour moi, ça ne me gêne pas, parce que j'ai été habitué par la cinémathèque de la rue d'Ulm, où nous avions plus ou moins fait connaissance à voir des films japonais sans sous-titres. Donc, on n'y comprenait rien, et en même temps, on comprenait tout. Voilà, donc je ne pense pas que ces références que je vous donne relèvent tellement des clins d'œil qu'on a beaucoup reproché aux cinéastes de la Nouvelle Vague. Quand il y a eu le reflux de la Nouvelle Vague, et même quand la Nouvelle Vague se heurtait à ses premiers adversaires, il était très très fortement question du plaisir que ces petits jeunes se payaient à faire des références, à s'amuser, à citer, etc. Et c'était, bon, donc les gens allaient chercher, je me souviens même que Frédéric Rossif était allé chercher Wells pour lui faire dire du mal des gens qui faisaient des citations, ou elle se disait « I hate citations », etc. Eh bien, je ne crois pas qu'il s'agisse de ça ici. D'ailleurs, comme je ne crois pas qu'il s'agisse de ça, chez aucun des cinéastes de la Nouvelle Vague, sauf les mauvais qu'on a un peu oubliés. Je pense qu'il y a simplement, il y a parfois le besoin d'un guide. Le besoin d'un guide. Et bon, l'épisode que vous allez voir s'ouvre sur une statue de Dante. Et quand on parle de Dante, c'est qu'on pense à Virgile. Et si cet épisode sur ces deux épisodes qui s'appellent Don Tommaso, donc Don Tommaso c'est Landolfi, s'ouvre sur Dante, c'est qu'il faut un guide pour découvrir Landolfi. Bon, le premier guide, c'était celui qui a mis Jean André, et ça c'est dans le film, dans l'épisode, c'est celui qui a mis à Jean André les livres de Landolfi entre les mains, en lui disant surtout ne lis pas ça. Il lui a dit ne lis pas ça. C'est Léo Mingrone, et un grand Straubien que vous avez peut-être vu, que vous avez même certainement vu dans Othon, et qui a été aussi l'assistant de Straub à d'autres occasions, qui était un grand ami de Jean André. Donc il y a des Virgiles dans tout ça. Bon, les Virgiles, on peut les énumérer, mais enfin c'est comme les noms de femmes. C'est ici il y a Léo Mingrone et Idolina Landolfi bien sûr, et puis il y a aussi Olimpia Carlisi qui fait un retour depuis de la nuit à la résistance et qui lit quelques textes de Landolfi. Et puis bien sûr les autres, on les connaît, c'est Rouche, Pasolini, Ninetto, Alain Cuny, dans les premiers épisodes, et ainsi de suite. Bon voilà, dans un cadre simple, je pense que c'est pas... Donc là, les citations, on est très très au-delà de l'idée de citation, on est très très au-delà de l'idée d'influence aussi, des calcomanies. Je pense que dans un cadre simple, c'est une culture qui s'exprime pas au sens savant, plutôt au sens jardinier, une imprétation, quelque chose qui a poussé, imprégnation culturelle si on veut, mais quelque chose qui a poussé à partir d'un certain terreau, et plus encore que ça. Et alors je retrouve en préparant cette soirée un texte qui m'avait été transmis par un ami qui était Claude Thiébaud, qui était aussi un cinéaste, qui a aussi travaillé à Unicité, et qui était un peu un groupie de Jean André pendant plusieurs années. Et un jour, je pense qu'ils avaient pas mal fumé, Claude Thiébaud a enregistré Jean André. Il a fait une transcription mot à mot, sans ponctuation, sans capitale, etc., dans laquelle j'ai trouvé quelques phrases qui me paraissaient une assez belle définition de l'enseignement, puisque aussi bien Jean André, bon, que c'est vrai bien sûr, et que beaucoup d'autres n'ont pas cessé d'enseigner tout en disant, bon, on peut aussi penser à Nicolas Rey, à quelques autres, ils n'ont pas cessé d'enseigner tout en disant que l'enseignement était impossible. Et donc en janvier 78, il dit ça, la réalisation ne s'apprend pas, puisque c'est l'ensemble des relations qu'un individu a avec le monde. La seule façon d'apprendre la réalisation, ça serait l'analyse, c'est-à-dire un rapport vécu d'une relative justesse. Voilà, donc pour les raisons concrètes donc de transfert, de restauration, nous présentons deux épisodes qui concernent essentiellement Tommaso Landolfi et Joé Bousquet. Je dis en postface, en espérant que ça sera pour la fois suivante, que j'ai une affection particulière pour les suivants, qui sont eux davantage partir à la recherche du bonheur, exercice périlleux s'il en est. Et je me souviens en particulier d'un plan où Jean-André Fieschi accroche le linge d'une main en filmant de l'autre. Je pense que c'est une bonne définition. Mais déjà ici, il est assez question, dans l'épisode Landolfi, et dans l'épisode Bousquet surtout, bien sûr, il est assez question dans le premier et d'une très très belle relation entre un père et sa fille, et dans l'autre, de la solitude. Alors, quelques mots sur la manière dont nous voyons ces deux épisodes. Nous les voyons dans un état de copie-travail. Le premier parle, malheureusement, plus que je ne l'avais pensé, par l'italien, donc il n'y a pas de traduction. Pour le second, donc l'épisode... Donc le premier est dans la continuité, l'épisode 5, le second c'est l'épisode 6. Pour le second, Jean-André avait fait distribuer en 2004, ici même, une traduction des textes de Landolphis. C'est la traduction exacte que vous avez eue ici. On arrêtera une trentaine de secondes entre les deux épisodes, d'une part pour qu'on souffle. Les deux épisodes font, bien qu'il y ait une continuité entre les deux, font respectivement 56 et 48 minutes. Donc il y aura une petite pause entre les deux, d'une part pour que vous ayez le temps de potasser la traduction de ce qui va suivre, et puis avec mes excuses pour l'absence de traduction de ce que vous allez voir maintenant dans les 56 minutes, mais enfin il y a beaucoup de parties sans texte. Voilà, merci.
J'avais oublié deux, trois précisions strictement qui relevaient de la règle du jeu et qui me semblaient plus utiles à donner que j'aurais dû vous donner avant. Et voilà, c'était l'idée qui avait été donnée, c'est ça. Pas un arrêt à l'image, pas un son ajouté, la chronologie des tournages strictement respectée, et un rapport du monté au tourné de 1 pour 3 ou 4. Voilà. Donc les quatre premiers épisodes sont consacrés essentiellement à des repérages, ça commence au Père Lachaise, et ensuite essentiellement un tournage parallèle à celui d'un film sur Alain Cuny. Oui, la précision, c'est qu'évidemment, ces films qui se tournaient, il ne s'agit pas du même tournage. Les films se tournaient avec des opérateurs. Je pense qu'en général, l'opérateur était Luc Pagès. Et ce tournage-là est un tournage totalement distinct de ce qui a été fait, de ce qui a été intégré dans les films, que ce soit le film sur Cuny ou la série Préface. Ça a été mis en scène pour le film de Préface et il a demandé à Olympia de lire des textes de Landolphi. Je ne sais plus ce qui en est gardé ou non dans Préface. Donc ça, oui, c'était une envie de rencontrer et de travailler avec Olympia Carlisi, qui est une comédienne italienne très très impressionnante et que nous connaissions surtout, en Italie, elle avait joué avec pas mal d'amis et elle est surtout dans Othon et dans De la nuit à la résistance, les films de Straub.
Et qui est le monsieur qui fait des frottages?
Ben, je ne sais pas, ça doit être une espèce d'Ernest Pignon Ernest, je ne sais pas du tout. C'est Léo, ouais. C'est ce que je pense. Oui, je subodorais un truc comme ça, effectivement. Donc ma remarque sur la non mise en scène tombe. Elle est caduque.
Voilà. Et les scènes dans le casino avec les joueurs, là aussi, c'est dans un... Enfin, je veux dire, c'est en quelque sorte volé au cours d'autre chose, ou bien c'est lui...
Je me souviens très vaguement, je pense que c'est volé, oui. Je pense qu'il m'avait raconté, je crois que c'est volé, qu'il s'entendait bien, qu'il avait plus ou moins soudoyé quelqu'un, et il les avait tournés en douce. Mais j'ai un très très vague souvenir de cette histoire, c'est quand même... c'était une...
Alors, il n'a pas laissé de notes sur les moments...
Ah ben j'ai pas gardé les notes, moi j'ai que des souvenirs verbaux. Là vraiment je n'en sais pas plus. Il y a des épisodes que je connais par récit et puis d'autres que je ne connais pas là. Simplement bon, avoir une idée comme ça donne un petit peu le sentiment du fonctionnement, mais dans le détail oui, ben il reste à quelqu'un à consulter les notes. Il y en a. Il y en a toujours.
Oui, quand tu as dit que Jean-André n'aimait pas le point de chouche, c'est-à-dire d'André Labarthe, et qu'il avait fait le sien, je pensais que qu'il avait tourné autre chose. Mais
non.
Là, si je me souviens bien, il y a des plans qui... Le plan de la...
Non, il a utilisé...
La machine à tisser, et puis même les cancres là, ça vient de Labarthe. Donc, c'est quoi ? Il a remonté des fragments du film, c'était...
Je pense qu'il a utilisé des... Il a utilisé des... Un truc minimaliste. Il a utilisé des éléments du film de Labarthe de manière minimaliste. Il faut aussi dire que les plans de Labarthe sont ne sont pas c'est pas des plans de Labarthe par par fanatisme. C'est simplement parce que Labarthe est quand même une figure récurrente assez importante dans le jeu des voyages et qu'il y a des choses aussi bien au début que beaucoup plus tard. Il y a des moments où il réapparaît, où ça ne relève pas seulement du journal intime de filmer le copain, ça relève aussi d'un échange sur une conception de cinéma. Donc c'est plus de la manière joueuse dont fonctionne Labarthe. Donc je pense que le plan de Labarthe, discutant avec Denis Fred, je me suis un peu posé la question en revoyant l'épisode hier, je pense qu'il est là parce que précisément on est dans un... parce qu'il y a des réponses d'épisode à épisode. Et en effet, non, il n'y a pas de tournage sur Bruno Schulz. Je ne suis pas du tout sûr d'ailleurs qu'il ait lu Bruno Schulz avant le film de Labarthe. Je pense qu'il... Mais j'ai oublié, comme je ne l'ai pas vu, j'ai oublié à quoi tenaient ses réserves. Peut-être que Labarthe pourrait mieux le dire. Il y a quand même ici trois ou quatre personnes qui ont vu la totalité du jeu des voyages, y compris une qui l'a vu deux fois. Bien. Bon, je crois que les questions peuvent se poursuivre évidemment sans micro à la sortie ou vers un verre. Donc on va peut-être s'arrêter là. Pensez-vous. Bien, merci. Et donc je vous rappelle que la séance. Grâce au mouvement social de décembre, nous terminerons sur une séance qui aura lieu le 19 avril. Merci.